Alors, où est-ce qu'ils vont? Voilà, à Bethléem, dans cette contrée-là, la maison du pain. Ils cherchent à manger. Hein, allons là où on pourra être nourri. Et puis voilà, où c'est, où il y a un enfant mailloté dans une crèche, qui n'est pas dans, ce n'est pas dans l'hôtellerie habituelle. Et ils trouvèrent Marie et Joseph. Et ils trouvèrent Marie et Joseph. Et le petit enfant. Ils trouvent Marie, Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était dit, qui leur avait été dit. Alors voilà, ils entrent dans. Aussi, on voit toute cette affaire de se mettre à parler, quoi. Sortir du silence et se mettre à parler au sujet de ce petit enfant. Voilà, et l'évangélisation, hein, pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé de ce petit enfant. L'annonce de l'évangile, hein, l'annonce de bonnes nouvelles, dire des bonnes nouvelles. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Alors c'est formidable, hein, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. On est vraiment dans les affaires des évangélistes, là. Hein? Voilà, c'est Luc, tous les chrétiens qui disent des bonnes nouvelles, ils annoncent des bonnes nouvelles, comment le monde se transforme, d'avoir rencontré, de vivre avec cet enfant emmailloté dans la crèche, de vivre. D'accueillir ce pouvoir de devenir enfant de Dieu fait que le monde est transformé. Et cela donne la capacité de voir et de dire des bonnes nouvelles. Ils étaient dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses. Et les repassait dans son cœur. Donc on voit là une aventure de ce qu'est pour cette représentation de Marie et de ce qu'elle est dans la communauté chrétienne. Hein. Se souvenir, regarder toutes ces choses et se les redire dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà, cette affaire du conforme à ce qu'il avait été annoncé. Voilà, donc je trouve ça, moi, tout à fait surprenant. Et j'aime penser que c'est ainsi que Luc et les communautés de Luc résument l'essentiel de l'expérience chrétienne. Vous voyez, c'est quand même, on est loin de toutes les grandes choses extrêmement compliquées. Voilà, c'est pourri. Et il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si je reviens, j'avais envie de revenir à mon petit exercice sur. Ce terme d'évangélise, hein, l'évangélion. Voilà. Alors, et vous savez aussi qu'on a il y a une autre manière d'aborder ce mot. Ça, c'est la terminologie la plus classique. Hein. Angelos. Donc, on va avoir l'évangile. Et puis, il y a une autre manière de prendre ce terme grec, c'est de le prendre évang, élion. Et là, d'un seul coup, ça prend un autre sens. Si on fait la coupure comme ça, c'est pierre roulée. D'un seul coup, ça devient pierre roulée. Et là aussi, on sent bien que les premiers chrétiens ont utilisé ce terme-là aussi. La pierre roulée, c'est le tombeau vide. c'est la résurrection. Là, donc, alors, l'Evangelion, hein, quand on l'a dans mon dictionnaire, c'est aussi la récompense, c'est aussi la récompense donnée aux porteurs de bonnes nouvelles. Voilà, c'est aussi, d'une certaine manière, on en a une récompense, quoi. Hein, et alors, ce qui est formidable, c'est que l'Evangelos, alors quand je lisais ça, ça tient pas grand-chose, hein, dans le dictionnaire, vous avez 6 ou 7 entrées, et il y en a une sur Evangelos, alors qui apporte de bonnes nouvelles, hein, l'ange qui apporte de bonnes nouvelles, on apporte de bonnes nouvelles, on est messager de bonnes nouvelles. C'est ça, est-ce que l'on est messager de bonnes nouvelles? Et j'ai trouvé ça surprenant, c'est qu'à la suite, il y a marqué « ou qui est soi-même une bonne nouvelle ». Est-ce que je suis simplement un messager d'une bonne nouvelle ou est-ce que je suis moi-même une bonne nouvelle? Et j'ai senti, il y avait là quelque chose qui me faisait tilt. Je me disais, mais il y a des gens, des fois, on dit vraiment, celui-là, c'est pas un cadeau. Hein. Est-ce qu'on est un cadeau pour les gens? Est-ce que le fait de notre proximité va faire que les choses vont être plus légères ou est-ce qu'elles vont être plus lourdes? Et vous vous souvenez, hein, cette affaire sur la manière dont de la parole, de la critique, de poursuivre cette espèce d'atmosphère ambiante où rien ne va, où tout est de pire en pire, etc. En réalité, et ça c'est... Est-ce qu'on est porteur de bonnes nouvelles et est-ce qu'on est soi-même une bonne nouvelle? Et ça, je crois que c'est le mystère chrétien. Accueillir cette bonne nouvelle de la filiation divine pour être continuellement cadeau à l'humanité, cadeau aux hommes, bonne nouvelle pour les hommes. Et cette expérience-là fait voir le monde autrement. Fait voir le monde autrement. Hein, alors que tout le monde va n'y voir que de la détresse, on pourrait presque dire de la pourriture, ce regard-là, il va y voir de la fermentation, va y voir du renouveau, va y voir des fils de semences qui sont en train de prendre. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Donc il y a une autre approche, quoi, sur la problématique de la bonne nouvelle. Annoncer des bonnes nouvelles. Et bien sûr, ça vous rejoint et vous comprenez de quoi il s'agit. C'est pour moi ce qu'on a appelé le partage de bonnes nouvelles, c'est de cet ordre-là. C'est de l'ordre du fondamental de notre conversion, de notre métanoïa, du changement d'approche de notre existence, où tout devient, j'allais dire, incroyable, ou plutôt tout devient formidable. Tout devient parce que tout est formidable. Parce que d'être là, c'est quand même quelque chose, quoi. Alors qu'on passe un peu là... dans l'attente de choses extraordinaires et on attend des événements extraordinaires comme le malade de la piscine qui attendait que ça bouillonne pour pouvoir on attend des événements extraordinaires. L'existence est extraordinaire, hein, et c'est ça qui va faire le changement, je crois, qu'on va appeler, hein, l'éternité, qui est l'intensité du moment présent. Vivre est intense, quoi. Et ça, je crois que les témoignages d'Etil sont là pour nous le dire, quoi. C'est que dans ces petites choses, quoi. Et d'avoir cette espèce de recul dans le regard, dans l'être, là, en train de vous, en train d'écrire, moi, d'écouter, moi, en train de parler. Quel cadeau! Quel incroyable! Cette présence. d'être soutenu, d'être là, cette fleur, ces objets faramineux. Et puis une année extraordinaire, hein, l'incroyable, je relisais, l'année de la découverte du boson de Higgs, d'avancer sur une compréhension de la matière, de l'univers, fait par une espèce d'assemblée là, de gens qui sont à la fois des Japonais, des Chinois, des Pakistanais, des Indiens, des Américains, des Russes, hein, des chercheurs du monde entier, dans un effort incroyable, finissent par trouver ça, ce qu'ils cherchaient. Voilà, ça c'est une vraie bonne nouvelle. Et puis il y en a d'autres. Donc c'est une approche. Et ça c'est ça l'évangile. Réussir, trouver le moyen de, bien sûr, de déreligioser cette aventure-là. Quoi. La vie, l'intensité de vie. Et je crois que c'est ça qui a touché les hommes quand ils ont rencontré Jésus. C'est l'intensité de la vie de cet homme-là, l'intensité de sa présence, hein, qui les a aspirés, scotchés, intéressés. Et alors là, voilà, un homme de bien. Hein, voilà, comment que dit-on, hein, comment ça se fait qu'on l'a crucifié? Mais on n'a jamais vu un homme de bien comme ça, quoi. Un homme de bien. Un homme qui disait donner des bonnes nouvelles. Voilà, donc ça c'était nos évangélion. Voilà, la prédication. Ouais. Une fête de l'Annonciation. La fête de l'Annonciation. Voilà, alors ce qu'on pourrait faire aussi, alors on peut, d'une certaine manière, hein, dans ces... vous savez, hein, ce petit conseil que nous avions reçu d'un ange, hein, qui était Lita Basset, qui nous disait, quand on vous lisait l'Évangile, faites un peu l'exercice de vous dire, mais je suis un peu tous les personnages, parce que tous les personnages ont quelque chose à me dire. Quoi. Hein? Et donc, dans ce passage-là, qu'on vient de lire, de l'Évangile, bien, en quoi je suis ce personnage-là, hein, César, César Auguste, qu'est-ce qui est en moi de ça, Quirinius, là, hein, cette espèce de formalisme, des choses strictes qui veut se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que la Syrie, qu'est-ce que c'est que pour moi en moi, qu'est-ce que c'est que la Galilée, qu'est-ce que c'est que la Judée? Qu'est-ce qui vit en moi? C'est quoi ces espaces? Et et prendre le temps de réfléchir. L'autre jour, je me disais, mais quels sont dans l'existence les tueurs de Dieu? Et je me disais, en fait, je crois qu'il y a deux tueurs de Dieu. Le souci, l'angoisse. Pourquoi l'angoisse est-elle un tueur de Dieu? C'est quand on se fait du souci, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Parce que si vraiment Dieu existe, toute chose est remise à sa place, quoi. Et ces montagnes de soucis, ou je ne sais pas ces montagnes, ces distributeurs de soucis que nous vivons, d'angoisse que nous vivons, quoi, les unes derrière les autres, pour... qui est notre lot commun. À chaque fois, et ça c'était cette parole d'Eti, hein, qui nous dit, mais à chaque fois où je suis dans une angoisse, c'est comme si je votais une motion de censure contre Dieu. Je dis Dieu n'existe pas. Chaque fois où je me fais du souci, je vote et je dis Dieu n'existe pas. Parce que quand je me vis dans la fiance, dans cette Dieu me crée à cet instant. Il est en toute chose. Les choses viennent. Oui, je vais mourir, bien sûr, on va mourir. Ben, c'est pas la fin. Le Christ est ressuscité. Le monde est à lui. Donc, bon. Et on sait, dans le témoignage des Tilsons, c'est un moment clé où elle accepte la mort. D'un seul coup, elle a beaucoup de courage pour faire tout ce qu'il faut, quoi. On sent bien qu'il y a un moment clé comme ça. Et donc, je sais plus où j'en étais. Le souci, voilà, le souci, l'angoisse comme tueur de Dieu. Et ça, dans nos vies quotidiennes, hein, ça c'est à chaque fois on est dedans, je crois que ce qui, tchac, et donc à chaque fois où il y a ça, de se dire, et comment faites-vous pour retrouver la foi? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver ce lieu intérieur de cette fiance, de cette relation personnelle, de cette confiance qui fait que on entend, c'est moi, n'ayez pas peur. Hein, et de quand c'est la tempête, tout est perdu, et c'est moi, n'ayez pas, c'est moi. Et au milieu de tout ça, c'est moi. Donc voilà, ça. Donc les tueurs de Dieu. Le deuxième, j'ai l'impression, et après je me disais, le deuxième tueur de Dieu, j'ai pensé à Pascal, qui disait, ce qui nous sépare le plus de Dieu, c'est le divertissement. Et ce n'était pas le loisir, ce n'est pas forcément ça, mais c'est surtout de ne pas prendre le temps d'exister réellement. C'est d'empiler les choses pour remplir le temps. Vous voyez, d'être saturé de choses et de ne pas avoir le temps de réfléchir. S'arrêter, hein, s'arrêter. Hein. On sait qu'il y a des lieux, il y a eu des, on a connu hein, des lieux où on s'exerçait au rappel, ce souvenir. S'arrêter un moment, quoi, quelques respirations. Et ça, je crois que. Et je suis dit, enfin, il y aura sûrement que la liste risque de se rallonger, mais aujourd'hui, je vois bien deux grands tueurs de Dieu dans mon existence. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc, c'est un grand récit, hein. L'annonce de l'Évangile et de. Cet exercice que nous pouvons faire hein, et qui nous est donné les uns les autres, de nous exprimer aussi, hein, d'apprendre à transformer l'existence, que notre existence devienne de plus en plus, que les gestes quotidiens, les petites choses qu'on fait, et c'est ça que je crois qui est, quand cette intuition hein, de lancer le partage des bonnes nouvelles, c'était pas tant d'essayer de collecter des événements exceptionnels de notre mois ou de notre trimestre, c'était de comment nous réussissons à transfigurer notre quotidien. Comment on fait que la vie quotidienne devient lumineuse, quoi. Hein, c'était cette image que moi j'ai toujours, c'est que qu'on voit la télé, hein, quand on passe telle poudre ou liquide à laver, les carrelages et puis les éviers, etc. Bof, ça reste un peu terne, quoi. Et puis, on prend, je sais plus quoi, Monsieur Propre ou je sais pas qui, et d'un seul coup, il y a une espèce de traînée blanche, et puis il y a des étincelles de diamants partout, tout. Et c'est pour moi ça l'aventure des bonnes nouvelles, quoi. Et c'est de ça que petit à petit on devrait être un cadeau pour les gens parce que quand on arrive, c'est un peu plus lumineux, c'est un peu plus simple, c'est un peu moins lourd, c'est un peu moins brumeux, c'est un peu moins pesant, il y a un peu plus d'espérance. Vous voyez, c'est toujours ça. Et on sent bien que qu'est-ce que après coup, le monde chrétien va définir comme étant ces trois forces de la vie chrétienne. Elle va dire, mais d'abord, c'est la fiance. C'est toujours est-ce que je suis en lien avec une source? Est-ce que je bois à la source? Est-ce que ça. Où est la source? Elle est bouchée. Est-ce que le puits, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a beaucoup de roches, je n'arrive plus. Donc c'est toujours ça, voilà, toujours au début, c'est cette fuyance. Et puis le deuxième, l'espérance. Est-ce que l'avenir est ouvert? Est-ce qu'il y a de la lumière dans tout ça? Et puis ce troisième, cette force qui nous pousse intérieure, qui est simplement de laisser vivre et répondre à ce qu'on a reçu, étant aimé à ce point, et c'est ça l'expérience de la fuyance, hein, de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, je suis aimé à ce point. C'est quoi ce point-là? Dieu a pris le temps de me faire un berceau de 12 milliards d'années pour que j'existe. Il a fallu l'existence de tout l'univers de l'évolution des poissons, etc., des dinosaures, des mammifères, de l'aventure des hommes préhistoriques pour que je sois là. Voilà, c'est ça l'aventure. Quelle affaire! Donc, étant aimé d'un tel amour, ça jaillit en moi et ça se donne en amour, en tendresse, en bonté, on va dire ça, hein, parce que parfois l'amour, on ne sait plus ce que c'est. Hein, on appelle ça, ce mot de charité, en bonté, quoi. D'un seul coup, on se met à devenir bon. Voilà ce qui me semble être, hein, cette bonne nouvelle, quoi, la bonne nouvelle. Bonne nouvelle des vivants. Et c'est pas une aventure religieuse. Où que nous soyons à notre travail, hein, avec nos clients, est-ce que c'est avec nos élèves, est-ce que c'est avec nos collègues de bureau, est-ce que c'est avec nos chefs, est-ce que c'est avec où que nous soyons, hein, les gens que nous côtoyons, nous rencontrons. Voilà. Est-ce qu'on va être pour eux un cadeau? Est-ce qu'on va être le porteur de bonnes nouvelles? Est-ce qu'on va être lumineux? Ou est-ce que, ben, on va refléter l'obscurité ambiante et on va la poursuivre et on va accumuler ça en plus? Et donc, puisque c'est notre dernière conférence de l'année, et puis on va enclencher avec cette nuit, cette nuit de Noël, hein, c'est bon, qui est pour bientôt, et donc c'est déjà là. Hein, on bascule d'une nuit noire, d'une nuit, la plus longue nuit, pour redémarrer, les jours vont réouvrir, hein, c'est quand même, on est content, hein, que les jours petit à petit se réouvrent un peu. Hein, et bien voilà, de pouvoir retrouver l'espérance, et c'était. Vivre ce lien permanent, hein, de filiation, de confiance intérieure, d'abandon, de ce savoir aimer. Ce savoir aimer. Et en cela, et c'était ça que pour Paul dira, mais alors rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Parce que, alors, il dit, mais alors tout est à vous. Puisque je suis enfant de Dieu, tout est à vous, le monde, tout ça, tout est à vous. Il n'y a plus, c'est-à-dire, voilà, vivez, vivez, vivez. Voilà, donc ce sera notre lancée pour l'année qui vient, hein, dans cette aventure, de cette fiance intérieure, de cette espérance. Hein, j'ai bien aimé ce que nous donnait Michel pour les prochains travails d'effervescence et de dire que voilà, est-ce que c'est plutôt, on est plutôt dans une aventure d'une renaissance, d'une ouverture, plutôt que dans des grandes catastrophes, quoi, que la crise va se poursuivre et qu'on, non, mais que c'est un renouveau qui s'ouvre, quoi, en fin de compte. De prise de conscience, voilà, des choses qui se mettent en route. Et parce qu'on le sait tous très bien que nos épreuves nous apprennent beaucoup. Voilà, je m'arrête là.
C'était la conférence spirituelle de Jacques Parmentier sur l'annonce de l'Évangile. Le mois prochain, le 26 janvier 2013, la conférence spirituelle sera « Les heures de la vie chrétienne ordinaire ».